Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur !
Il ne s'agit ni d'une plante, ni d'un animal, ni d'un champignon, mais d'un organisme unicellulaire dépourvu de cerveau et de système nerveux qui fascine les chercheurs, mais aussi le grand public, le blob. Il ressemble à une omelette, vous l'avez sûrement croisé sans savoir ce que c'était. Il vit sur toute la planète. Le blob se déplace, mange et grandit très vite. Au début de sa vie, il mesure 50 micromètres. Dans de bonnes conditions, sa taille double tous les jours. On dirait qu'il peut grandir à l'infini, qu'il est indestructible. Audrey Dussutour est notre grande spécialiste française du blob. C'est elle qui lui a donné son nom. Audrey Dussutour est chercheuse au CNRS à Toulouse. Elle est aussi l'auteur aux éditions Équateur de Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans oser le demander. Le blob est un génie sans cerveau.
Les aventuriers sur France Inter.
Alors le blob, c'est un organisme assez étrange qui est relativement ancien. Les premiers organismes qui ressemblent vaguement à des blobs, ils émergent il y a 1 milliard d'années. Ils ne font ni partie du règne animal, ni du règne végétal, ni du règne des champignons. C'est un règne un peu plus ancien qui s'appelle les amébozoaires. Donc il y a un organisme qu'on connaît bien dans ce règne, c'est l'amibe. Le blob, c'est un petit peu comme une amibe, mais un peu améliorée et beaucoup plus grande surtout.
Et quelle est sa particularité? On dit que c'est un organisme unicellulaire.
Tout à fait, c'est un organisme unicellulaire, donc composé d'une seule cellule, mais cette cellule peut faire plusieurs mètres carrés, ce qui le différencie des micro-organismes type bactéries ou ciliés par exemple.
Il ressemble à quoi le blob? Vous avez dit une omelette.
Tout à fait, il ressemble à des œufs brouillés. Ça ressemble parfois à des éponges un peu jaunes. Alors Physarum polycéphalum, celui sur lequel on travaille, il est tout le temps jaune. Mais dans la classe des myxomycètes, l'ensemble des blobs, il existe plus de 1000 espèces différentes. Et là, vous allez pouvoir trouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
C'est un organisme archi étonnant. Et comment se fait-il qu'on s'y intéresse depuis si peu?
Alors, c'est pas qu'on s'y intéresse depuis peu longtemps, c'est son comportement qui focalise un petit peu l'intérêt des scientifiques actuellement. À l'origine, dans les années 60, de nombreuses personnes étudiaient le blob, puisque c'était un organisme unicellulaire visible à l'œil nu. Donc tous les biologistes qui faisaient de la biologie cellulaire étudiaient cet organisme. Puis après, il a été abandonné, parce que avec l'amélioration des techniques de microscopie, on s'est focalisé sur des cellules un peu plus proches de nous. Et le blob a été abandonné, laissé de côté, jusqu'à ce que des éthologistes comme moi s'intéresse au blob et à son comportement assez fascinant.
Alors le blob, quel drôle de nom, et c'est vous qui avez trouvé ce nom-là?
Oui, parce que son nom, c'est Physarum polycéphalum, et il n'a pas de nom vernaculaire en français. Il en a un en anglais, qui est moisissure gluante, mais on n'avait pas d'équivalent en français, et c'est vrai que Physarum polycéphalum, c'est un petit peu long à dire dans des conversations, et comme je suis extrêmement cinéphile, je connaissais ce film avec Steve McQueen, qui s'appelait The Blob en anglais, ou Danger planétaire en français, et l'organisme qui est un extraterrestre dans le film ressemble particulièrement au blob.
Extrait.
From then on, there's no stopping the blob as it spreads from town to town. It's indestructible. It's indescribable. Nothing can stop it. The Blob.
Starring Steve McQueen and a cast of exciting young people.
Alors ce film parle d'une chose informe venue de l'espace qui dévore tout sur son passage. C'est vraiment ça le blob?
Alors le blob ne dévore pas des gens, il dévore des bactéries et des champignons. Mais ce qu'il a en commun avec cet extraterrestre dans le film, c'est que le blob va doubler de taille, voire tripler de taille tous les jours.
On peut le laisser grossir de façon infinie?
Alors, si on le nourrit, oui. Il faut le nourrir tous les jours. Alors, nous, au laboratoire, on le nourrit avec des flocons d'avoine. Et donc, le blob, comme ça, va grandir. Mais il a quand même, comme nous, un processus de vieillissement au cours du temps. Il va y avoir la sénescence du blob. Et donc, après 3-4 mois que vous avez votre cellule géante, elle va commencer à montrer des signes de faiblesse. Elle va commencer à vieillir. Elle va commencer à attraper des infections. Elle va rétrécir un petit peu. Elle n'est pas contente. Mais là, on a un système qui est assez génial chez le blob, c'est que quand votre blob il est tout vieux comme ça, vous pouvez le faire sécher.
Et alors ?
Et donc vous le faites sécher, vous prenez un petit morceau, vous lui donnez plus à manger, il va sécher, il va s'endormir, littéralement s'endormir, c'est une forme de dormance, et il peut rester ainsi pendant plusieurs années. Gardez ça dans un placard, et si vous voulez jouer à nouveau avec votre blob, vous mettez juste une petite goutte d'eau sur cette petit blob séché.
Et ça le réveille ?
Et ça va le réveiller. Mais là, il va être jeune à nouveau. Tous les signes de sénescence avant l'endormissement vont disparaître. C'est pour ça qu'on dit parfois que le blob est quasi immortel. Alors, le blob est immortel dans le sens où si on s'en occupe bien en laboratoire, on peut le garder en effet ad vitam aeternam, mais il y a quand même des dangers qui peuvent tuer le blob.
Alors, il paraît qu'il a un réseau veineux. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors comme on a une cellule qui est géante, il faut pouvoir en fait distribuer les nutriments, l'oxygène à l'intérieur de cette cellule. Et le blob, il a un système qui est très proche de notre système vasculaire. Il a un système veineux. Donc c'est un réseau de veines. Alors ces veines, elles sont formées de fibres d'actine et de myosine, qui sont des fibres musculaires que vous allez aussi retrouver dans vos cellules musculaires et qui vont se contracter. Et en se contractant, elles vont pousser le liquide qui coule à l'intérieur de ces veines, qui est plus ou moins le sang du blob, c'est du cytoplasme. Et donc ce liquide transporte les nutriments et l'oxygène à l'intérieur de la cellule. Et ce système veineux, en plus d'être un système de distribution, c'est un système locomoteur. Parce que le blob, c'est une seule cellule, il n'a donc pas de pattes.
Et
donc,
mais il se déplace.
Il se déplace, bon. Pas très très vite, il ne vous courra pas après en forêt. Alors c'est 1 cm à l'heure en moyenne, 4 cm quand vraiment il a très faim. Et donc comment il fait ? Donc ces veines, elles vont se contracter, elles vont pousser le liquide contre la membrane de la cellule et ainsi ça va avancer. C'est un peu un système comme les marées. Donc le blob, il pousse le liquide contre la membrane, donc il avance, puis après il reprend un petit peu de ce liquide et puis il pousse à nouveau. Donc il fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière.
Quand vous en parlez, ça fait presque peur.
Oui, en réalité, il est complètement inoffensif.
Ouf.
Alors, il est un peu incroyable parce que comme ça, il peut s'échapper. Ça nous est arrivé au laboratoire de le retrouver au plafond, mais parce qu'on n'était pas là pendant 2 jours. Mais en réalité, il est vraiment complètement inoffensif.
Et il mange donc des flocons d'avoine. Vous avez même testé des flans pour voir quelles étaient ses recettes préférées.
Oui, tout à fait. En 2010, on travaillait sur la nutrition et on cherchait à savoir comment le blob régule ses besoins alimentaires. Et pour cela, on ne pouvait pas utiliser les flocons d'avoine, puisque c'est une nourriture qui est très peu modifiable. Et donc, on a créé comme des crèmes brûlées pour blob. Et on pouvait ainsi modifier la quantité de protéines et de sucre à l'intérieur de ces flans. Et donc, on a proposé 32 recettes différentes au blob. Et ça nous a permis de connaître ses besoins nutritionnels. Et donc, on a pu découvrir qu'il avait besoin de 2 fois plus de protéines que de sucre. Et ensuite, une fois qu'on connaissait le régime qui maximisait sa survie...
Parce que vous avez fait comment ? Vous avez mis des blobs sur différentes crèmes brûlées, en quelque sorte.
C'est ça. En fait, vous déposez le blob sur ces flans. Donc, c'est des flans qui sont plus ou moins solides. Et le blob va se développer. Et on va mesurer, en fait, l'air du blob, le développement du blob, son poids aussi. On va le peser sur la balance, etc. Donc, on va découvrir, finalement, comme ça, le régime qui va maximiser sa croissance. Et une fois qu'on a cette information, on peut le mettre face à ce qu'on appelle des cafétérias. Donc là, vous placez le blob au milieu d'une boîte et vous lui présentez plusieurs flans autour de lui.
Et il va choisir.
Et il va choisir. Et là, on va s'apercevoir que le blob va toujours choisir le flan qui maximise sa croissance.
C'est incroyable.
Oui, il ne va pas se faire avoir par des flans très sucrés ou très protéinés. Il va vraiment directement aller vers celui qui est bon pour lui.
Et il mange comment ?
Alors,
il n'a pas de bouche.
Non, il n'a pas de bouche.
Il n'a pas de cerveau, il n'a pas de bouche.
Il n'a pas de bouche, il n'a pas de cerveau, il n'a rien du tout.
Pas
il n'a qu'une cellule. Exactement. Donc, il mange par un processus qu'on appelle la phagocytose. Et en réalité, il engouffre sa nourriture dans sa membrane. Donc, en réalité, il entoure, par exemple, une bactérie de sa membrane. Et ainsi, elle va pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule.
Et il se reproduit comment ?
Alors, le blob.
Il n'a pas de sexe.
Alors, il a des types sexuels. Alors, la sexualité du globe, c'est très compliqué.
C'est alors, toujours compliqué, la sexualité, de toute façon.
La sexualité des organismes unicellulaires est bien plus compliquée que la nôtre. Alors, le globe, il se reproduit avec des spores. C'est pour ça qu'on l'avait confondu avec un champignon au départ. Et donc, ces spores, elles ont un type sexuel. Et il existe 720 différents types sexuels chez le globe. Et donc, pour qu'il y ait une reproduction sexuée, il faut que deux spores fusionnent et que ces deux spores soient de types sexuels différents. Donc il faudrait vraiment qu'elle ait pas de bol, disons, la spore, pour tomber sur une spore qui a le même type sexuel, puisqu'elle a 719 chances sur 720 de trouver le bon type sexuel.
Donc deux blobs se rencontrent et ça donne quoi ?
Ça donne un autre blob. C'est comme vraiment la reproduction sexuée. En réalité, quand les spores sont formées, elles sont disséminées par le vent et quand elles se retrouvent en milieu humide, elles deviennent des petites cellules flagellées. Et là, elles peuvent nager. Et là, elles vont nager à la recherche d'un partenaire de sexe opposé. Et là, il va y avoir fusion, ce qu'on appelle une syngamie. Et là, on va avoir la formation d'un nouveau globe.
Alors, le blob est entré au zoo de Vincennes, il y a quelques mois. C'est important pour vous ?
Tout à fait. Alors, moi, je trouve ça vraiment une idée excellente d'avoir amené un organisme qui ne soit ni animal, ni végétal dans un zoo. Donc, c'est le premier organisme unicellulaire qui est présenté. Alors, c'est peut-être parce qu'il est visible à l'œil nu que c'est facile, mais j'espère que ça va juste donner des idées à tous les directeurs de zoo d'ouvrir des micro-zoos où on pourrait voir d'autres organismes unicellulaires parce qu'il y a une variété absolument hallucinante.
Donc, on peut le voir au Parc Zoologique de Paris, au Bois de Vincennes. Et Céline Louzen, de France Culture, il y a quelques mois, a rencontré Rudy Guillaume, qui est responsable des espaces verts et jardiniers et qui s'occupe des blobs.
Donc là, nous sommes dans la pièce qu'on a appelée la déblobisation.
Et c'est une première pièce, du coup, où on va s'occuper du blob.
Et donc ici, donc, du coup, on va l'élever dans des boîtes de pétri.
Donc comme vous pouvez le constater, vous avez des boîtes de pétri, donc avec leur petit couvercle. Au fond, vous avez du papier filtre humidifié. Donc sur ce papier filtre, on va tout simplement déposer des flocons d'avoine sec et on va poser un bout de sclérote ou un bout de plasmodium frais. On le pose au milieu de la boîte de pétri et là, ben, il va se développer gentiment et couvrir la totalité de la boîte de pétri.
Et qu'est-ce qu'on voit exactement au zoo ?
Alors au zoo, on voit un blob dans un milieu quasi naturel. Il est présenté dans un terrarium et on le voit se déplacer sur une souche d'arbres humides en train de manger des micro-champignons et des micro-bactéries. Et à chaque fois que le blob parcourt un centimètre, les soigneurs mettent un petit drapeau pour indiquer où le blob était parce qu'on ne peut pas le voir bouger à l'œil nu.
Si on ne va pas au zoo, où est-ce qu'on peut le voir ?
Alors, on peut le voir en forêt. Il y a énormément de myxomycètes dans les forêts françaises. Alors, vous allez peut-être pas voir Physarum polycéphalum, mais vous allez peut-être voir ces deux cousins qu'on voit partout, qui sont Fuligoseptica, qui ressemble à une grosse éponge jaune, qui est aussi appelée en français la fleur de thym. Mm-hmm. En anglais, c'est dog vomit, un petit peu moins poétique. Et son deuxième cousin, c'est Mucilago, qui est un blob blanc, qui est aussi très spongieux, qu'on observe beaucoup dans les prairies.
Unicellulaire, pareil.
Toujours, tous les blobs sont unicellulaires.
Et vous l'avez vu pour la première fois quand ?
Alors moi, je l'ai découvert pour la première fois en Australie. En réalité, moi, je suis une spécialiste des fourmis.
Mais je sais.
Et j'ai étudié à l'époque la nutrition chez les fourmis. Et mon directeur de laboratoire à cette époque-là écrivait un ouvrage sur la nutrition de l'insecte à l'homme. Et il me disait au cours d'une conversation, « Ah, ça serait tellement super que ce soit de la cellule à l'homme. » Et je lui dis, mais il faudrait un organisme unicellulaire visible à l'œil nu pour faire le système des cafétérias, etc. Et finalement, on a réfléchi et on s'est dit, ah, il nous faut Physarum polycéphalum. Et on l'a fait venir au laboratoire. Et on n'était pas très emballés au départ.
C'est pas très ragoûtant.
Il n'était pas très joli. On en reste dit, donc, comme disait, une omelette. Et au début, on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec cet organisme? Et finalement, 10 ans après, je l'ai toujours avec moi.
Le blob mange des flans, le blob mange des flocons d'avoine, mais qui mange le blob ?
Alors le blob est mangé par des limaces essentiellement, un petit peu certains scarabées, mais les limaces le dévorent, elles sont vraiment très gourmandes de blob.
Je suis l'homme à tête de chou. aux yeux de Marilou. Je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à fond de cale, à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Les jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié coucou. Savoir, mec, il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y vis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, de mes rancors, des clous. Écume Varec sur la plage de Malibu.
C'était Serge Gainsbourg, bien sûr, l'homme à tête de chou.
Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Le blob est un organisme très bizarre qui passionne les rares chercheurs qui s'y intéressent, comme Audrey Dussutour. C'est un glouton, mais il choisit ce qu'il mange et on en a vu fouiller les poubelles. Le blob n'a pas de membres, mais il se déplace. Le blob n'a pas de neurones, mais il est capable d'apprendre et de résoudre des problèmes très complexes.
Alors oui, le blob est capable d'apprendre. Ça, c'était une découverte assez exceptionnelle, puisque c'était la première fois qu'on démontrait sans aucun doute qu'un organisme unicellulaire, donc non équipé de système nerveux, pouvait apprendre.
Il apprend quoi ? Et comment il apprend ?
Alors, il apprend pas des choses très compliquées, ça reste un blob. Il apprend à ignorer des substances qu'il n'aime pas, mais qui sont inoffensives. Donc l'expérience était relativement simple. On présentait au blob des substances qu'il n'aime pas de manière innée, donc par exemple le sel, et on lui présentait cette substance, et là on observait un comportement typique du blob qui n'aime pas, c'est-à-dire qu'il essayait de partir à l'opposé, ou il faisait des tout petits pseudopodes, des petites excroissances pour essayer d'éviter de toucher la substance. Sauf qu'il n'a eu pas de chance, tous les jours on lui représentait cette substance. Et on s'est aperçu qu'au bout d'une semaine, le blob ne présentait plus aucune aversion vis-à-vis de cette substance et finissait par traverser la surface avec le sel sans aucun problème. Et c'est vrai que c'était une découverte qui peut paraître anodine comme ça, mais de savoir qu'on pouvait apprendre son cerveau au niveau donc, d'une seule cellule, c'est assez porteur même au niveau, par exemple, de la médecine, etc.
Mais oui.
Puisque jusqu'à présent, vraiment, on était tellement focalisé sur le système nerveux qu'on n'imaginait pas que nos cellules, de manière individuelle, pouvaient retenir une information.
Le blob est donc capable d'apprendre et de prendre des décisions. Je vous propose un petit extrait du film Le Blob, un génie sans cerveau, un film de Jacques Mitch, auquel vous avez participé. C'est une production Arte Édition.
Au sein de la communauté scientifique, Toshiyuki Nakagaki est considéré comme le maître des blobs. Il est le premier à avoir révélé leur extraordinaire capacité de déplacement. Le professeur Nakagaki et son assistant Daniel Shenz peuvent donc le confronter à des tests de comportement généralement réservés aux animaux. Notamment le test du labyrinthe. Le blob est placé dans un labyrinthe en présence d'une source de nourriture. Va-t-il trouver son chemin ?
Alors on met le blob devant un labyrinthe qui est compliqué ?
Alors le labyrinthe est relativement compliqué. Alors l'expérience, elle est assez différente de celle qu'on fait chez les animaux parce qu'on ne met pas le blob à l'extrémité du labyrinthe. Là, on le met partout dans le labyrinthe. C'est-à-dire qu'on couvre le labyrinthe, un labyrinthe vraiment complexe de blobs. Et à la sortie et à l'entrée, on met deux petits flocons d'avoine. Et là, on va s'apercevoir que le blob, finalement, il va se rétrécir et utiliser finalement que le chemin le plus court dans le labyrinthe. Il va vraiment éliminer toutes les parties de blob qui sont inutiles.
Comment il retrouve le flocon d'avoine? Il a un odorat?
Alors oui, le blob peut percevoir des tas de stimulus dans l'environnement. Il peut percevoir la lumière, il peut percevoir des substances chimiques, parce qu'il a des récepteurs sur sa membrane, un petit peu comme nos récepteurs gustatifs, par exemple, qui lui permettent de goûter son environnement. Et donc si il y a du sel ou du sucre dans l'environnement, il va réagir de manière différente. S'il sent du sucre, il va se diriger vers la source de sucre. Par contre, s'il sent du sel, il va partir à l'opposé.
Qu'est-ce qu'il peut apprendre encore, le blob ?
Alors le blob, il peut apprendre à ignorer des substances, et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a découvert. Mais l'étape d'après, qui est assez exceptionnelle, c'est qu'il peut transférer sa connaissance sur ses apprentissages à ses congénères.
Ça veut dire qu'ils apprennent les uns des autres ?
Exactement. Alors ça, c'était une découverte qu'on a fait suite à l'apprentissage, parce que le blob a une capacité assez exceptionnelle, qui est qu'il peut fusionner avec ses congénères. S'ils sont génétiquement identiques, si deux blobs sont côte à côte, bah, ils vont en former un seul.
En revanche, si on coupe un blob en plusieurs morceaux, il va donner plusieurs blobs ?
Exactement. Parce que comme le blob est unicellulaire mais possède plusieurs noyaux, donc plusieurs copies de son matériel génétique, il peut très bien être coupé en plein de petits morceaux. Et donc si on apprend à un morceau de blob, par exemple, à s'habituer au sel, on peut le faire fusionner avec un blob qui est complètement naïf, et cet apprentissage va passer d'un blob à l'autre.
Alors une fois que le blob a appris quelque chose, il garde cet apprentissage en lui combien de temps ?
Alors si on le laisse éveiller, au bout de 2 jours il va oublier. Par contre, si à la suite de l'apprentissage vous le faites entrer en dormance, là il va s'en rappeler pendant toute la période de dormance. Donc il peut s'en rappeler pendant 1 an. Au réveil, quand vous allez réveiller votre blob, il se souviendra de l'information apprise avant l'endormissement.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il peut apprendre son cerveau, donc ça bouscule pas mal de choses dans le monde du vivant.
Exactement, et du coup il fallait trouver les mécanismes qui peuvent permettre à une cellule d'apprendre, puisque ça ne peut pas reposer sur un système nerveux. Et le blob fait une chose qui est tout simple. Quand il veut apprendre à s'habituer à ignorer une chose qu'il n'aime pas, il l'avale tout simplement. On a découvert que nos blobs qui s'habituaient par exemple au sel étaient gorgés de sel. Finalement, pour s'y habituer, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il l'incorpore à l'intérieur. Donc je dis souvent aux enfants, si vous deviez apprendre comme le blob, vous devriez manger vos devoirs.
Ah ben oui, c'est une bonne idée ça, on pourrait peut-être essayer. J'ai vu qu'on pouvait couper un blob en 10 000 morceaux. Et que ça donnait 10 000 blobs.
Exactement. En fait, la taille limite quand on a un blob très très grand, c'est moins d'un millimètre carré et ça reste viable. Donc si vous avez un blob de 10 mètres carrés, vous imaginez le nombre de blobs que vous pouvez faire.
Et le plus gros qu'on ait pu rencontrer, il fait quelle taille ?
Alors, dans la nature, les plus gros, ils vont faire 1 à 2 mètres carrés grand maximum. Mais en laboratoire, là, on n'est pas limité. Donc le plus gros qui est enregistré à l'heure actuelle dans le Guinness des records, c'est 10 mètres carrés.
Ce qui est déjà pas mal.
C'est énorme, mais en réalité, on peut aller bien plus loin que ça. Il faut juste avoir beaucoup de patience et beaucoup de flocons d'avoine.
Le fait qu'on puisse le découper, est-ce que ça bouscule aussi la notion d'individu ?
Oui, parce que quand on fait des expériences, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le blob en plein de petits morceaux et on teste ces morceaux. Donc finalement, est-ce qu'on teste le même individu ? Est-ce que ce sont des individus différents ? En réalité, ce sont des clones. Mais nous, on a publié en 2018 une étude sur ces clones et on a montré que du moment où ils sont séparés en petits morceaux, chaque morceau acquiert sa petite individualité.
Donc ceux que vous étudiez sont jaunes, ils ont toujours la même forme ou ça varie ?
Alors la forme varie en fonction de l'environnement, en fonction de ce que détecte le blob. Et alors on a plusieurs, nous, souches au laboratoire, donc plusieurs backgrounds génétiques différents. Ça reste tous des Physarum polycéphalum, on a plusieurs individus génétiquement différents. Et on peut voir que ils varient dans leur couleur du jaune très clair, pour par exemple notre blob australien, à un quasi-orange pour notre blob américain.
Vous leur donnez des flocons d'avoine. Ça mange beaucoup ou ça mange pas beaucoup ?
Alors ça mange, en moyenne, si vous avez un blob par exemple de 10 cm², il va falloir recouvrir à côté de flocons, 10 cm² de flocons environ. Donc c'est un petit peu sa surface.
Ce qui est fascinant avec le blob, c'est le côté mystérieux, inconnu. Ça ouvre des portes fantastiques sur la recherche, non ?
Oui, c'est vraiment un organisme qui surprend parce qu'on n'imagine pas qu'un organisme qui est finalement assez proche d'un champignon puisse prendre des décisions, anticiper des événements également. Toshi Yaki Nakagaki a aussi montré que le blob, si on l'entraîne par exemple à lui donner des petits coups de froid, il va pouvoir anticiper cet événement et se mettre en protection bien avant que le coup de froid arrive. Donc c'est aussi un organisme qui peut anticiper des événements.
Il préfère le froid, le chaud, la lumière, l'obscurité. J'ai cru comprendre qu'il n'aimait pas trop la lumière.
Non, alors là, il n'aime pas les UV en particulier parce que comme il n'a, c'est qu'une seule cellule, il n'a qu'une petite membrane. Et donc les UV, comme on le sait avec nos cellules, peuvent dénaturer l'ADN. Et c'est pour ça qu'on attrape des coups de soleil. En fait, nos cellules meurent. Ben, le blob, c'est pareil, il peut mourir au soleil. Donc il faut toujours qu'il soit à l'obscurité. Et au niveau température, le blob, il aime bien quand il fait 25 degrés. Mais après, on peut le garder de 18 à 28 à peu près.
Et avoir son blob à la maison, est-ce que c'est une bonne idée ?
Oui, c'est moins embêtant qu'un chat et un chien, puisqu'on peut l'endormir pendant quelques années.
C'est moins câlin, je pense.
Exactement, c'est moins câlin, mais c'est plus surprenant. Et c'est assez facile. On a fait un tutoriel qui est disponible sur YouTube, si jamais vous voulez vous lancer dans l'élevage, où on explique comment donner à manger à son blob, et surtout, comment l'endormir.
Quand on part en vacances.
Quand on part en vacances ou quand on en a trop.
Et comment le réveiller, vous expliquez aussi.
Oui, le réveiller, c'est le plus simple. Endormir, c'est un petit peu plus compliqué.
Tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving, it never stays away from right. So if you can't sleep in the morning, oh, you better close the night. And I wake up with this feeling in my body.
Kiss me in the morning, c'était Georgia Smith.
Les Saventuriers sur France Inter.
Une seule cellule qui fait tout, yeux, oreilles, bouche, estomac, sexe, tel est le blob qu'Audrey Dussutour, chercheuse à Toulouse, élève en laboratoire. Les blobs, on en trouve sur toute la planète, mais tous ne se ressemblent pas. Les blobs australiens, japonais ou américains ne se comportent pas du tout de la même façon. Et ils n'ont pas les mêmes goûts.
Au départ, quand on faisait nos expériences, on travaillait sur un seul blob, le blob australien, puisque c'était celui qu'on avait trouvé au départ. Et je trouvais, moi, de mon point de vue, un peu bizarre de travailler sur un seul blob qu'on coupait en morceaux. Et déontologiquement, je me suis dit que c'était quand même mieux d'avoir au moins quelques autres individus pour pouvoir comparer. Et donc, on a fait venir au laboratoire un blob américain. Et là, clairement, de suite, on a vu que ça n'avait rien à voir.
Ils ne s'entendaient pas.
Alors, surtout, ils ne mangeaient pas la même chose. Notre blob australien, on le nourrissait avec des flocons d'avoine bio, parce que c'est mieux. Et donc, on a donné la même nourriture à notre blob américain, qu'il a littéralement refusé. Il a préféré aller explorer la poubelle à côté. Et finalement, lui, il préférait une marque américaine que l'on ne citera pas. Et du coup, tous nos blobs, maintenant, sont nourris avec cette marque de flocons pour que tout le monde mange la même chose au laboratoire.
Mais alors, vous dites, il est allé explorer la poubelle d'à côté, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé jusque vers la poubelle ?
Exactement, parce que nos boîtes de pétri sont des boîtes qui sont respirantes, donc il y a des
poutres. Alors, les boîtes de pétri, ce sont des boîtes font circulaires. 10 cm de diamètre,
voilà,
à peu près ?
Voilà, c'est ça, qui ressemblent à des assiettes où il y a
un couvercle. En plexiglas.
Voilà. Mais comme elles sont respirantes, parce que le blob respire, du coup, il y a des petits trous. Et donc forcément, le blob, il peut partir dans des tout petits trous. Et donc, le blob américain, ce qu'il a fait, c'est que quand il a touché les flocons bio, il a reculé, il est reparti, il est sorti de la boîte, et il y avait la poubelle pas loin, il a été explorer ce qu'il y avait dans la poubelle.
Ah, c'est drôle. Et le blob japonais ?
Alors, le blob japonais, c'est le troisième blob qu'on a acquis au laboratoire. Et lui, on s'est aperçu qu'il était extrêmement rapide. On fait pas mal d'expériences où on teste les blobs sur leur capacité à détecter, par exemple, des différences de concentration entre deux sources de nourriture. Et donc, on avait testé notre blob australien, notre blob américain et notre blob japonais. Et on s'est aperçu que quand le blob fait face à deux sources de nourriture, une qui est très riche en flocons d'avoine et une qui est très pauvre en flocons d'avoine, le blob australien, sa stratégie, c'est d'attendre un tout petit peu, comme s'il pesait le pour et le contre, et ensuite de se diriger vers la nourriture la plus riche. Il se trompe jamais. Le blob japonais avait une stratégie complètement différente qui était « je réfléchis pas, je fonce » et une fois sur deux, il se trompait.
Mais vous n'avez pas essayé les sushis avec ?
Non, on n'a pas essayé les sushis, non. Je suis pas sûre que le blob aimerait le poisson, en réalité. Et le blob américain avait une stratégie qui était un petit peu entre les deux. Il prenait un petit peu le temps de réfléchir et puis il allait quand même relativement vite et finalement était le plus performant de nos blobs.
Et qu'est-ce que vous concluez avec toutes ces expériences ? Qu'est-ce que vous tirez de toutes ces expériences ?
Alors, sur les personnalités, entre guillemets, bien sûr, des blobs, on a longtemps cru que chez les unicellulaires, la variabilité entre les individus était très faible. On pensait que la variabilité émergeait avec la complexité des organismes. Donc plus on était complexe, plus on était variable, plus on était différent. Et finalement, avec le blob, on montre que même une cellule est très différente d'une autre cellule, avec un patrimoine génétique différent. Donc on n'avait que des physarons polycéphalum, c'est la même espèce, mais ils présentaient des différences qui étaient assez incroyables.
Qu'est-ce que vous aimeriez encore comprendre, Audrey Dussutour ?
Alors, actuellement, ce qu'on cherche à savoir, c'est si ces capacités d'apprentissage vont plus loin qu'un processus d'habituation. Et surtout, est-ce que le processus d'habituation qu'on a démontré se limite à des substances chimiques ou est-ce qu'on peut l'habituer à d'autres stimulus sensoriels ? Par exemple, est-ce qu'on peut habituer un blob à une source lumineuse ? Est-ce qu'il peut retenir une information lumineuse et chimique ? Ou est-ce qu'il devient complètement confus ? Est-ce qu'un blob qui a appris A, par exemple, la substance A et un blob qui a appris la substance B, si on les fait se fusionner, est-ce qu'ils connaissent A et B ou est-ce qu'ils font un mix ? Donc on a plein de projets en ce moment autour de la mémoire chez les blobs.
Et il ressemble à quoi votre laboratoire ?
À l'heure actuelle, mon laboratoire est vieux. Donc notre laboratoire, il a été construit dans les années 50-60. Donc c'est un des très vieux bâtiments, mais on déménage bientôt. Mais sinon, c'est une petite salle avec des choses qui ressemblent un peu à des frigos, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle des étuves. C'est vraiment, ça ressemble à un frigo, mais au lieu de faire 4 degrés, il fait 25. Et c'est à l'intérieur de ces frigos qu'on fait nos expériences. Donc, elles sont équipées d'appareils photo, de plateaux de LED qui sont connectés à des petits ordinateurs, des petits Arduino, ce qui nous permet de prendre des photos des blobs, mais d'allumer la lumière juste pendant que la photo se prend. Parce que le blob n'aimant pas la lumière, c'est difficile de filmer son comportement. Mais le blob étant très très lent, une photo toutes les 5 minutes, ça suffit pour qu'on puisse suivre son comportement.
Alors Audrey Dussutour, vous aimez le cinéma et vous m'avez conseillé le film Life, origine inconnue, un film de 2017 de Daniel Espinosa.
Nous avons une confirmation visuelle.
Je la vois.
Il se pourrait que ce soit une découverte scientifique majeure.
Nous avons devant nous la première preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Moins d'oxygène, plus de dioxyde de carbone.
C'est vraiment magnifique.
Regardez à quelle vitesse il se développe. Chacune de ces cellules est une cellule musculaire et une cellule nerveuse.
Il n'est qu'un muscle.
Que cerveau ? Quel est son niveau d'intelligence ?
Quel est son niveau d'intelligence ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question si on parle du blob ?
Alors, ça dépend de la définition qu'on va choisir pour l'intelligence. Nous, la définition que l'on prend, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Et en ce sens-là, le blob présente de très grandes capacités à résoudre des problèmes, puisque le labyrinthe, les réseaux aussi, on sait que le blob est capable d'optimiser, par exemple, son réseau vasculaire. Et dernièrement, on a fait des découvertes encore plus incroyables, puisqu'on a montré que le blob, il est aussi capable d'interagir avec ses congénères, de percevoir même le stress de ses congénères.
Alors, comment ça se passe quand on met plusieurs blobs ensemble ?
Alors, si vous mettez, par exemple, deux ou trois blobs dans une boîte, et qu'ils sont bien nourris, ils vont s'agréger. Ils vont se retrouver. Parce qu'un blob qui est bien nourri, il est très attractif pour un autre blob. Parce qu'il va sécréter dans son environnement du calcium pour signaler qu'il est content, qu'il est bien nourri, et ça va attirer les autres. Par contre, si dans cet environnement, vous mettez cette fois un blob bien nourri et un blob qui a été affamé depuis 48 heures, là, il va vraiment pas du tout aller vers ce blob affamé. Et on a démontré donc récemment, dans une publication qui va sortir très bientôt, que le blob est capable de détecter un stress exprimé par un autre congénère.
Est-ce qu'un blob peut en manger un autre ?
Ça arrive. Il y a des petits accidents en laboratoire. En réalité, les blobs, ils fusionnent qu'avec des blobs qui sont génétiquement identiques. Mais comme avec notre corps, il y a des problèmes de reconnaissance du soi, ce qui nous permet, par exemple, nous, de faire des greffes. Mais chez le blob, quand il y a un problème de reconnaissance de soi, ça pose des problèmes. Et c'est ce qui nous est arrivé avec notre blob américain et notre blob japonais, puisque des fois, quand ils se rencontrent, ils ont l'impression qu'ils sont pareils, mais ils ne le sont pas. Et du coup, ils fusionnent. Mais là, bien sûr, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'ils ne sont pas du même background génétique. Et là, le blob américain tue le blob japonais.
c'est Pomme qui chantait La Lumière.
Les Saventuriers sur France Inter.
Au-delà de l'aspect ludique du sujet, le blob ouvre de nombreuses fenêtres aux chercheurs. Cet organisme qui semble indestructible détient peut-être les clés de la longévité. Il peut aussi proposer des pistes pour traiter le cancer.
Alors le blob est une grande source d'inspiration pour la recherche appliquée également. Donc nous au laboratoire, il est clair qu'on fait de la recherche fondamentale. Mais le blob peut servir aussi en recherche appliquée, et c'est déjà le cas. Les travaux de Toshiaki Nakagaki sur les réseaux, par exemple, ont montré qu'on pouvait s'inspirer du blob pour optimiser nos réseaux. Donc l'expérience était assez rigolote. Il a posé au blob le même problème que l'humain avait eu à l'époque, c'était de construire un réseau pour rejoindre les villes japonaises. Et donc, il a posé un blob au milieu d'une mini-carte du Japon. Et sur chaque emplacement des villes, il a posé un petit flocon d'avoine. Mm-hmm. Le blob était placé sur Tokyo. Toshi a laissé le blob explorer l'environnement et à chaque fois qu'il trouvait un flocon d'avoine, il construisait une veine. Et il s'est aperçu que du coup, au bout d'un moment, il y avait un réseau qui se formait et il a comparé ce réseau au réseau ferroviaire japonais. Et il s'est aperçu qu'il était beaucoup plus efficace finalement que le réseau construit par l'homme. Et maintenant, il y a des chercheurs qui ont fait du coup des algorithmes qui reproduisent les règles comportementales utilisées par le blob pour construire des réseaux optimisés.
Audrey Dussutour, vous êtes éthologue. À l'origine, vous occupiez des fourmis. Est-ce que le blob est proche de l'animal ?
Oui, alors la façon dont on en parle, c'est clair qu'on a l'impression qu'on parle d'un animal de compagnie souvent.
Oui, un drôle d'animal de compagnie quand même.
Au laboratoire, quand on en parle vraiment, on lui prête des émotions, on lui parle comme on parlerait à un animal, comme on parlerait aux fourmis. Et c'est vrai qu'on a même un attachement qui se crée. Donc quand ils sont malades, par exemple, on est triste pour eux, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est un modèle qui n'est pas animal, mais ça se rapproche plus de l'animal pour moi que d'une plante.
Et est-ce que d'après vous, cet organisme étrange nous amène à voir le vivant de façon différente ?
Oui, il nous fait comprendre qu'il y a une richesse dans le vivant qui est souvent inconnue. C'est vrai qu'en recherche, on travaille souvent sur les mêmes modèles. On va travailler sur la drosophile, donc la mouche du vinaigre, on va travailler sur la souris, le rat, le primate. Et finalement, le blob, il nous montre qu'on peut trouver une richesse comportementale assez hallucinante chez un organisme qui était pratiquement jusque-là inconnu. Mm-hmm. Et c'est pas le seul. Il y a une variété d'organismes qui est incroyable, il y a une biodiversité incroyable. Et à l'heure actuelle, on est en plus en train de perdre cette biodiversité et on va du coup perdre de l'information et c'est extrêmement dommage.
Et qu'est-ce que nous, les mammifères, avons de commun avec le blob ?
Alors, l'homme peut vraiment avoir trouvé de l'information dans le blob, entre guillemets. Le blob, par exemple, c'est un organisme qui est utilisé par des chercheurs pour essayer de combattre le cancer. Donc, il y a un chercheur en Allemagne qui s'appelle Hans-Gunther Doberheiner qui étudie la morphogénèse du réseau vasculaire. Donc, il regarde comment se forme le réseau vasculaire quand le blob est tout petit. Et il utilise ces règles de morphogénèse pour les comparer avec la vascularisation de certaines tumeurs. Parce qu'en réalité, quand un cancer débute, au début, vous avez un petit amas cellulaire, mais au bout d'un moment, la tumeur grossit et finalement, elle va court-circuiter la circulation et se créer son propre réseau pour alimenter toutes les cellules cancéreuses. Et ce chercheur s'est aperçu que finalement, cette vascularisation, cette formation des veines obéissait aux mêmes lois entre une tumeur et un blob. Et du coup, il utilise le blob comme un modèle expérimental pour mieux comprendre comment se met en place ce réseau et surtout comment le contrecarrer.
Alors, vous faites de la recherche fondamentale, mais il y a d'autres applications encore.
Oui, il y a deux publications qui ont démontré, mais par pur hasard, que le blob était capable d'accumuler des métaux lourds. Donc, les chercheurs avaient trouvé des Fuligosepticae, donc le petit cousin de Physarum polycephalum, donc qui est un blob aussi. Ils avaient mesuré le taux de métaux lourds à l'intérieur et ils s'étaient aperçus qu'ils étaient extrêmement enrichis en zinc et en manganèse. À des doses qui sont normalement létales chez n'importe quel type cellulaire. Et lui, il pullulait avec cette dose de zinc et de manganèse à l'intérieur de sa cellule. Et c'était une première évidence que le blob pourrait être utilisé pour dépolluer certains sols. Donc c'est une recherche qui est en cours aussi actuellement, qui a été reprise. On va voir, nous, de notre côté, si Physarum polycephalum est capable aussi de le faire.
S'il avait un esprit, vous pourriez le raisonner. S'il avait un visage, vous pourriez le regarder dans les yeux. S'il avait un corps, vous pourriez le tuer. Le blob. La terreur n'a pas de forme.
Ça, c'était un extrait du film Le Blob de 1988, le film de Chuck Russell avec une traduction française d'Eric Oswald. Le blob que vous étudiez n'est pas terrifiant.
Pas du tout terrifiant. Il peut être un peu dégoûtant, mais clairement pas terrifiant.
Et vous en profitez souvent pour faire un plaidoyer pour la recherche fondamentale.
Oui, tout à fait, parce que c'est un organisme qui est inconnu. Et pourtant, il nous a appris beaucoup de choses. Et il est clair qu'il faut encourager la recherche qui se fait sur des modèles non étudiés jusqu'à présent, parce que c'est peut-être eux qui vont finalement mener à de grandes découvertes. Et le monde, par exemple, des unicellulaires est très peu étudié. Or, on a des organismes qui ont des capacités de régénération, des capacités aussi de vivre éternellement, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas étudié. Et je pense que le blob, son attrait pour le public, montre aussi qu'il existe une curiosité chez les gens pour ces organismes un petit peu étranges. Et je pense qu'en effet, il faut absolument soutenir cette recherche fondamentale, puisqu'on sait que les grandes découvertes en science se sont faites pour la plupart dans le cadre de la recherche fondamentale. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'heure actuelle de parler beaucoup innovation, recherche appliquée. Mais si on enlève, si on ne soutient pas la recherche fondamentale, on tuera automatiquement aussi la recherche appliquée.
Dans les films, le blob ou ces masses gélatineuses qui arrivent sur Terre viennent de l'espace. Est-ce qu'on peut imaginer que le blob ait été apporté par une météorite ?
Non, le blob vient bien de chez nous.
Bon.
Mais par contre, il a été envoyé dans l'espace. Il a fait peut-être le chemin inverse du film, puisque les Russes l'ont envoyé dans l'espace dans les années 80.
Ça donnait quoi ?
Eh ben, le problème, c'est qu'ils n'ont pas su le ramener vivant. Ils n'ont pas su s'en occuper. Donc nous, on a pour projet de le renvoyer dans l'espace. Alors de deux manières. Le premier projet, c'est qu'il parte tout seul dans un nanosatellite où on pourrait observer avec des capteurs son comportement en zéro gravité, soumis aux rayons cosmiques. Donc si on arrive à accumuler suffisamment de financement, ce projet sera réalisé. Et la deuxième voie, ce serait plutôt avec un projet avec l'ISS.
Donc la Station Spatiale Internationale.
Exactement, d'essayer de demander à un astronaute de prendre le blob avec lui. Et donc là, on est en train de développer un projet, voir si on pourrait trouver quelque chose qui pourrait être réalisé en parallèle entre les écoles et l'ISS.
Et là, tout de suite, on imagine le blob dans l'ISS qui grossit. Et
comme dans le film Life.
Tout le monde. Oui.
Exactement. Non, ça n'arrivera pas. Je le promets.
Et s'il n'y avait pas de blob, on ne vivrait pas comme on vit aujourd'hui ?
Non, parce que s'il n'y avait pas de blob, il y aurait plein de plantes qui disparaîtraient. En réalité, le blob dans la nature, il a un rôle essentiel dans les écosystèmes, puisqu'il mange des bactéries et des champignons, et il va relarguer les produits de la digestion de ces organismes dans le sol, donc c'est des petits éléments qui vont, eux, nourrir le sol et surtout nourrir les plantes. Donc si on enlève les myxomycètes de la nature, on n'a certainement plus de plantes.
Et si on n'a plus de plantes, on ne mange plus.
Exactement. Vive les blobs.
Nambah ular ungana kuwalil
Il est australien, il est aborigène, il s'appelle Geoffrey Gurumul. Merci beaucoup à Djoubaka pour cette belle programmation musicale. À l'époque de Darwin, on parlait déjà du blob ?
Alors à l'époque de Darwin, le blob était classé chez les champignons et je crains que très peu de monde avait observé ses capacités assez extraordinaires.
Donc champignons, ni végétal, ni animal, mais déjà un peu spécial. Un petit extrait de Darwin.
Il est à peine exagéré de dire que la pointe radiculaire, douée et possédant le pouvoir de diriger les parties voisines, agit comme le cerveau d'un animal inférieur. Cet organe, en effet, placé à la partie antérieure du corps, reçoit les impressions des organes des sens et dirige les divers mouvements.
On peut dire avec ce texte que ce que l'on trouve dans la nature est très diversifié et plein de surprises.
Tout à fait. Darwin était le premier finalement à parler d'intelligence des plantes. Et actuellement, c'est prouvé. Les plantes peuvent apprendre, peuvent communiquer entre elles. Et il semblerait que chez certaines plantes, cette intelligence soit située dans les racines.
Et on peut établir un parallèle avec le blob.
Tout à fait, puisque le blob pousse ses prouesses encore plus loin, puisqu'il démontre qu'il est capable, qu'on peut avoir de l'apprentissage sans cerveau, sans multiples cellules. La différence entre le blob finalement et les plantes, c'est que les plantes sont quand même multicellulaires, donc on peut imaginer que de cette multicellularité émerge une certaine complexité. Or, chez le blob, on a une seule cellule, mais il est capable finalement de faire exactement les mêmes choses, c'est-à-dire communiquer avec ses congénères et apprendre.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, c'est le livre qu'Audrey Dussoutour signe aux éditions Équateur. Merci à Stéphanie Texier qui réalise cette émission avec Emma Ferret et Fanny Leroy. Merci à Alexandre Chenet à la technique. Une émission que vous pouvez réécouter autant que vous le voulez ou podcaster sur le site de France Inter. D'ailleurs, toutes les émissions de cette série sont déjà à votre disposition sur le site de votre radio préférée. N'oubliez pas non plus la page des Saventuriers où vous trouverez entre autres des liens qui vous permettront d'aller plus loin ou d'élever des blobs à la maison et pourquoi pas. Samedi prochain, nous parlerons des oiseaux et de leurs étonnantes facultés avec deux ornithologues géniaux de la Ligue pour la protection des oiseaux. Très bonne semaine à tous à l'écoute de France Inter.